Ah, il y a des jours comme ça, qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ça, au moins, c'est une victoire. J'espère que l'équipe Chirac-Raffarin, ils auront compris. On n'en veut plus de votre libéralisme. On n'en veut plus de vos délocalisations. On n'en veut plus de votre caste sociale. On n'en veut plus de vos turpitudes comme ça, presque royalistes. On n'en veut plus de vous, tiens. On n'en veut plus. Hein. On vous veut plus. Le mieux, ça serait que vous barriez, on serait tous contents. Allez, salut.
Raffarin, si t'es champion, présente, présente. Raffarin, si t'es champion, présente ta démission. T'auras l'air moins con.
Cher monsieur Raffarin, depuis 2 ans que vous êtes chef de gouvernement, voilà bien la première fois que je prononce votre nom avec le sourire. J'ai cru comprendre que les Français étaient un sentiment mécontents de vos procédés. Et vous l'ont dit bien nettement, et j'en suis bien contente, monsieur Raffarin. Maintenant, reste à souhaiter que vous en tiriez la leçon qui s'impose et que vous calmiez vos ardeurs médéfiennes. N'est-ce pas, monsieur Raffarin? C'était Nicole dans l'Aude.
C'est un petit message pour Jean-Pierre Raffarin. La démocratie, elle se fait pas dans la rue, elle se fait dans les urnes. Tiens, prends ça dans ta gueule.
Je t'appelle tout simplement pour te dire que je suis très content du résultat du deuxième tour. Et avoir la tête des journalistes et des gens de droite à la télévision, enfin je crois qu'il en manque quand même pour faire la gueule, c'est le patronat. Hein, j'aurais bien qu'il nous montre la tête des Sellières et compagnie. Bon, enfin bref, à bientôt Daniel, Lionel de Bourgogne.
Jean-Pierre Raffarin vient de s'exprimer sur l'antenne de France Inter, en tout cas c'est là que je viens de l'entendre, et ce monsieur dit qu'il va poursuivre les réformes, il dit que c'est ce que les Français veulent, et ça veut dire que ce monsieur est autiste, c'est-à-dire qu'il n'entend pas lui et son gouvernement. Ça veut dire que pour ces gens-là, le vote ne compte pas, et ils veulent la révolution. Voilà, ils veulent la révolution, ils veulent de la violence. Le vote ne compte pas pour ces gens, mais ça, on le savait. Voilà.
Salut, la mémoire des opprimés ne s'efface jamais.
Salut, je m'appelle Jean-Michel, je suis devant ma télé, je regarde les résultats des régionales, ils font le tour des QG de campagne régionaux. Ah, c'est la fête, ça fait du bien. Allez, ciao.
Alors là, pour une branlée, c'est une branlée. K.O. Et alors moi, je suis 3 fois plus heureuse parce que j'ai vu la gueule jamais souriante de Juppé. Allez, en prison Juppé, et tous en prison. Au revoir.
Salut à tous, Thierry de Villeneuve. Bon, ben hier soir, soirée d'élection, une de plus, avec les discours habituels. Vous êtes nuls, on est bon, et vous avez tort, on a raison. Mais c'est surtout les têtes habituelles qui m'ont choqué. Ce sont toujours les mêmes politiques de gauche, les mêmes politiques de droite, et même les mêmes journalistes. On a parlé de la France, des Français, mais je n'en ai pas vu un, je n'en ai pas entendu un. Quand est-ce qu'on aura enfin un vrai Français de la France d'en bas? Un de ceux qui ne passent jamais à la télé, invité sur une émission politique, sur un plateau, et pourquoi pas un plateau de radio, Daniel Mermet, avec une confrontation, un politique, et quelques-uns des Français de la France d'en bas. Voilà.
Oh, Fatude, je vous l'avais dit que la deuxième torgnole serait monumentale. Citoyen Chirac, réformé. Citoyen Raffarin, réformé. Citoyen Fillon, réformé. Citoyen Chirac qui s'était compromis avec eux, réformé. Eh ouais, hier c'était conseil de révision organisé par le peuple et pas un seul de bon pour le service, quoi. Ils aimaient tellement la réforme que même eux, ils ont fini par être réformés. Allez, ciao, et plein de bises de Jean-Claude à Marseille.
Bonjour, c'est Judith du Vaucluse. Eh ben, c'était juste pour dire que donc on est dimanche soir et j'ai une pensée très triste et très émue pour tous les Alsaciens de gauche. Je pense à vous. Au revoir.
C'est un message pour mon gros Raffarinou de la part de Tata Yoyo pour lui rappeler que c'est bien la rue qui gouverne et que les coups de pied au derrière, ça fait toujours avancer. Gros bisous. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Micheline de Sartelle. Alors comme ça, monsieur communication n'a pas su communiquer. Ils se moquent de nous, ces hommes de droite. C'est de leur politique qui privilégie les privilégiés dont on ne veut pas. C'est de leur mensonge. Ils voudraient faire croire que faire des réformes, c'est faire cadeau aux assurances et aux banques, des retraites, de l'assurance maladie, de l'enseignement et j'en passe. Nous voulons de la solidarité, de l'aide aux plus démunis et non aux plus riches. Et ne nous trompons pas, cette gauche n'est pas la nôtre. Abolition des privilèges, reprenons la Bastille. Au revoir.
Et voilà, pas assez de réformes, pas assez de pédagogie et la France d'en bas aboie, se venge, prend sa revanche, voilà ce qu'on entend sur le répondeur de la Bastille. J'y suis, il y en a des heures comme ça. Et ben ça nous fait plaisir, voilà, je vous le dis carrément, ça nous fait plaisir. Et je voudrais préciser que nous gardons nos Alsaciens avec nous, nous les retenons chez nous. Thierry Scharf et Claire Auter ne retourneront pas en Alsace avant longtemps. Aujourd'hui, on est avec le Monde Diplomatique, avec le numéro du mois d'avril du Monde Diplomatique, avec la fine équipe. Aujourd'hui, ce sera Bernard Cassen, ce sera Serge Halimi, ce sera quelques autres. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base où j'y suis. Et ce lundi n'étant pas tout à fait comme les autres, on a même des pompiers qui nous parlent et même des flics.
Oui, bonjour, Laurent, sapeur-pompier professionnel dans les Bouches-du-Rhône. Et oui, voilà, nous sommes descendus dans la rue pour revendiquer encore une fois notre profession au niveau insalubre et dangereux. La seule réponse de nos ministres a été des tirs tendus sur les gens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les tirs tendus, c'est tout simplement des tirs au niveau de la tête, du corps, des membres, où cela fait très mal, des fois voire à des membres arrachés, tout simplement. Donc, je voudrais dire aussi un petit message à Monsieur Raffarin que nous, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et militaires, on connaît ce que c'est que la détresse et les gens d'en bas. Alors, quand ils se gargarisent de dire les gens d'en bas, qu'ils descendent ce monsieur d'en haut, regardez vraiment les gens d'en bas une fois dans sa vie, ça sera très bien. Merci, au revoir à tous et bravo pour votre émission.
Daniel, bonjour, je t'appelle car je souhaite te féliciter et te remercier pour la pertinence de tes émissions. Je voudrais également apporter un témoignage qui est sans rapport avec les sujets abordés cette semaine dans ton émission. Voilà, alors je dois t'avouer quelque chose, donc je suis un policier, un flic, un petit flic, un keuf comme on dit, un gardien de la paix. J'exerce mes fonctions sur la voie publique et je suis amené à croiser, on va dire, le délinquant de rue. Ah, le délinquant, tu sais, celui qui est à l'origine des maux de notre société, du dérèglement social, de l'insécurité. Le délinquant est en général bronzé, il est coloré de peau, il est fils d'immigrés, il refuse de s'intégrer, il profite de notre hospitalité, des bienfaits d'état social, et en plus il vole, il est violent, il trafique et il sait s'organiser. Eh bien, Daniel, sache que des policiers comme moi condamne ces idées conçues, fabriquées par certains médias, reprises par certains hommes politiques, par certains patrons, par des intellectuels à 2 francs 6 sous qui surfent sur la vague sécuritaire, et que nous savons tous très bien que la petite et la moyenne délinquance n'est pas uniquement la propension des individus à commettre un crime ou un délit, mais que cette petite et moyenne délinquance de rue est surtout la conséquence sociale on va dire de l'inégalité d'accès à l'emploi, à l'éducation, à la généralisation du salariat précaire, au chômage de masse, au démantèlement de l'état social par des politiques néolibérales, c'est plutôt elle qui fabrique la pauvreté, alimente la criminalité, et qu'il était tellement plus facile d'aller interpeller dans les quartiers pauvres que d'aller faire le ménage dans les classes moyennes et supérieures. Donc voilà, et puis que bien sûr ces politiques sécuritaires permettent d'exploiter, d'alimenter un électorat qui méprise, qui nie la pauvreté, la misère et les inégalités. Et puis je voudrais terminer par vous dire qu'au concours de police, donc j'ai passé une épreuve écrite de français et le sujet de la dissertation était le suivant. Ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons. et on nous demandait de disserter et de dire ce qu'on en pensait. Alors moi, j'ai envie de dire à nos chers dirigeants politiques, qu'en pensez-vous? Ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons. Voilà, Daniel, à toute l'équipe, merci pour vos émissions, et puis sachez que même dans la police, on vous écoute. Voilà, merci beaucoup.
Vous avez entendu cette phrase-là, hein? Et on va se la mettre en boucle, on va se la passer tous les jours, même dans la police, on vous écoute, même dans la police, on vous écoute. Il est bien, hein? Dommage qu'il n'ait pas donné ses coordonnées, peut-être qu'il le fera bientôt. Sur le répondeur de la base, j'y suis au 01 56 40 37 37, vous connaissez le numéro. Martine Bullard, Alain Grèche, Maurice Lemoine, Serge Halimi, Bernard Cassen, l'équipe du Monde Diplomatique nous attend après les messages qui vont suivre, qui font suite à l'émission Le reportage de Claire Otter, la grande reporter de la base, et j'y suis, Claire Otter, son reportage de jeudi avec Yves. Yves, cœur de cible, ce cadre supérieur qui est tombé bien bas, qui est tombé bientôt au RMI, il va bientôt être au RMI, tout simplement parce que dans la très très grosse boîte dans laquelle il travaillait, eh bien il a refusé de faire le sale boulot qui consistait à virer une pelletée de ses congénères salariés. Voilà, alors pour ce prétexte, il a été remercié, enfin... suggéré de déposer sa démission, ce qu'il a fait, et ce qui lui vaut cette dégringolade. Mais enfin, c'est un type qui lutte, qui combat et qui ne peut pas se laisser faire pour autant. Mais ça vous a particulièrement touché. On a dû recevoir entre vendredi et aujourd'hui le plus grand nombre de messages et de réactions sur un sujet comme celui-là, ce qui évidemment qui n'est pas sans écho et qu'on peut tout à fait rapprocher des raisons qui ont fait voter les Français, c'est-à-dire nous tous, comme nous l'avons fait.
Oui, bonjour Daniel, c'est Mohamed, 25 ans, de, quelque part dans les Yvelines. Je t'appelle tout bêtement parce que je me suis rendu compte entre hier et aujourd'hui qu'avec un diplôme d'ingénieur, bosser dans, comme ouvrier dans le bâtiment, que je fais en ce moment, je pensais être un raté et j'ai découvert que non, que j'étais pas tout seul comme ça. Donc ça me fait chaud au cœur et ça me fait du bien d'entendre tes émissions, comme quoi on n'est pas tout seul à en chier quoi. Allez, salut Daniel.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Franchement rafraîchissante, j'ai vraiment dégusté cette émission avec Yves Cœur de Cible comme artiste invité. Concis, précis, le vocabulaire équilibré, juste les mots qu'il faut, succulent. Je pense ne pas être le seul à m'être identifié à ce personnage. Mon expérience est similaire, j'aurais eu les mêmes propos que lui. Comme lui, je suis au chômage depuis plus d'un an, trimballé de bilans de compétences en programme personnalisé de réorientation, de soi-disant réinsertion, qui ne débouche sur rien, avec des personnels de la NPE ou autres prestataires bien braves au demeurant, mais complètement incompétents, et seulement intéressés par nos difficultés, que pour justifier de leur horaire de travail. Travail qu'ils doivent exclusivement à l'existence des chômeurs, comme le dit si bien Yves, dont je n'ai pas, moi, la brillante carrière. Moi, je suis photographe, j'ai travaillé 25 ans en Amérique latine et aux USA, et ma plus grande bêtise a été de rentrer en France il y a 13 ans. Maintenant, j'ai 56 ans, et même si on nous dit que les quinquas sont intéressants pour leur expérience, personne n'en veut. J'aimerais beaucoup le rencontrer, ce monsieur, on devrait pouvoir se parler. Bon allez, bon vent à tous et peut-être à bientôt. Et salut aussi à la dame qui a dit qu'il faut se bouger le derrière. Oh, combien elle a raison. Personne ne va le faire à notre place. Alors, ben on y va. Hein. Ah, dernier truc, moi aussi je m'appelle Yves et je vous appelle de la Bretagne. Allez, salut.
Oui, bonjour, c'est Claire, l'appareil. Je voulais vous dire que j'ai écouté l'émission d'hier et que je l'ai trouvé remarquable. C'est la première fois que j'entends parler de la réalité du chômage et du quotidien des chômeurs. Bravo à Yves de ses vérités. J'ai un parcours un petit peu similaire à lui, de cadre supérieur. J'ai été virée comme un chien d'un grand groupe de communication après 23 ans d'expérience. Et depuis 5-6 ans, à 52 ans maintenant, j'essaye de... je fais l'intermittente comme je peux. Bravo pour cette émission, bravo pour ce témoignage, et ça m'a donné du courage. Merci, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec le monde diplomatique.
Flight number 2.
Heureusement que Jean-Marie Cavada a eu la bonne décision en ne se présentant pas sur la liste de l'UMP en Lorraine.
Je vous trouve bien souriant et bien rigolard, ami du monde diplomatique, en ce lundi où nous allons parler du numéro du mois d'avril du monde diplomatique. Alors, qui veut commencer? Je pense que vous avez des choses à nous dire sur les élections. Martine Bullard, on va commencer par Martine Bullard.
Sur les élections, on va pas bouder notre plaisir. La droite a pris une énorme claque. Un énorme veto à sa politique a été donné dimanche. Et bon, on ne boudera pas ici notre plaisir. Sur les perspectives à venir, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les partis qui ont de la gauche plurielle sont restés pour le moins très discrets sur les politiques à venir. Cela dit, moi je trouve que on a vu pendant la campagne électorale de forts mouvements sociaux, malgré la campagne électorale, avec même si ces mouvements sociaux, comme je disais le mois dernier dans le monde diplomatique, sont quelquefois repliés sur eux-mêmes, sont quelquefois en difficulté, ils ont continué pendant toute la période de la campagne électorale, notamment le mouvement des chercheurs. Nous titrons c'est pas une guerre à l'intelligence que menait ce gouvernement, mais une guerre, comme nous le titrons dans le monde diplomatique, une guerre à la société.
Un grand article de Louis Pinto,
qui montre très bien qu'il y a à la fois chez une partie des travailleurs intellectuels un rejet de cette politique-là parce qu'ils n'arrivent plus à mener leur travail correctement, et à la fois c'est un programme qui dépasse très très largement les couches intellectuelles, qui a commencé par toucher les ouvriers les jeunes et les ouvriers les moins qualifiés, et puis qui est en train de toucher de proche en proche toutes les couches sociales, et notamment les couches moyennes qui, pendant toute une période, ont été relativement privilégiées par les pouvoirs en place et qui, aujourd'hui, commencent à être touchées. Deuxième, en même temps qu'il y a eu les élections régionales, politiques, avec une très forte participation, c'est une très forte participation de la population, une population qui est intéressée à la chose publique et à la chose civile dès lors qu'ils sentent qu'ils peuvent peser sur le cours des événements. Ce sont aussi, dans la dernière période, des résultats des élections professionnelles. On a vu à la SNCF, notamment, d'abord une très forte participation des salariés de la SNCF, 80% des salariés de la SNCF qui ont participé aux élections professionnelles, et on a vu une sanction très très forte de ceux des syndicats qui avaient prêté main forte au gouvernement au moment de la réforme de la retraite, notamment la CFDT, et une montée forte de la CGT, de Sudrail et d'une certaine manière de l'UNSA, trois syndicats qui ont d'une part marqué leur opposition à la réforme des retraites, très 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 fortement, et d'autre part veulent la défense d'un service public pour tous à l'intérieur de la SNCF. Donc je crois que ces éléments-là sont extrêmement positifs, et en vérité, on verra bien que le gouvernement aura beaucoup de mal, quoi qu'il dise, à continuer à mener cette politique. Ce qui est flagrant, c'est que le soir même des élections, alors qu'ils ont pris une claque absolument monumentale, les hommes du pouvoir continuent à dire qu'en vérité, les Français seraient impatients de voir plus de réformes.
Oui.
Les Français seraient impatients de voir plus de modernisation.
Oui.
Les Français seraient impatients de voir plus de mondialisation.
Mais oui.
plus d'Europe. Et bientôt plus d'Europe.
Mais oui.
Et qu'ils veulent poursuivre sur la voie qu'ils ont déjà tracée. Évidemment, les Français, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les Français sont pour des réformes. C'est-à-dire qu'on nous baratine.
Mais que veut dire ce mot réforme? Voilà. On ne sait pas du tout de quelle réforme il s'agit. Enfin, si on sait trop bien, et on sent trop bien de quelle réforme il s'agit.
On voudrait pousser les Français dans une image de ringardise. En vérité, ils seraient archaïques, repliés sur eux-mêmes, avec une volonté de laisser les choses en l'état, y compris les inégalités telles qu'elles sont aujourd'hui en l'état. Eh bien, c'est pas ça. Les Français veulent effectivement bouger des choses, mais ils veulent bouger dans le sens du progrès, dans le sens d'une plus grande solidarité. Ce qui frappe, c'est ça, hein, c'est que des mots hier dévalorisés comme solidarité, comme l'union, comme le social. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand on disait il faut plus de social, on nous expliquait que vraiment on était très archaïque. Eh bien, ces expressions-là et ces réalités-là, les Français sont aujourd'hui pour changer. Et juste un détail, j'arrête là, c'est que contrairement à ce qu'on nous dit, il y a des possibilités économique et politique de changement. Hein. On voudrait nous enfermer en nous disant, en vérité, on peut ne faire plus ou moins bien ce qu'on est en train de faire. En vérité, non, il y a des marges de manœuvre politique, ça va de soi, sinon c'est plus la peine de voter. Si on nous dit que les pauvres gouvernements ne peuvent pas changer le système, eh bien c'est plus la peine de voter. Or, les Français ont voté et veulent changer le système. Et deuxièmement, il y a des marges de manœuvre économique, on y reviendra peut-être dans le débat, mais je crois que c'est très important de montrer qu'on peut, oui, changer les choses dans le sens du progrès social.
Serge Hanimi.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je crois qu'on a assisté aux secousses secondaires du mouvement social du printemps, qui s'est conclu de manière peu satisfaisante, avouons-le. Et il y a eu deux secousses qui ont sanctionné deux alliés ou deux faire-valoir du MEDEF, au plan politique, la droite, qui a été largement balayée, y compris Ayagon, donc la réforme la contre-réforme des intermittents, Fillon, la contre-réforme de la sécurité sociale, accessoirement Sarkozy, qui était présenté comme le recours, s'est démené entre les deux tours avec les résultats qu'on connaît, parce que je sais pas pourquoi il est systématiquement ménagé et présenté comme une espèce de sauveur de je ne sais qui.
De Copé.
Ouais, peut-être, oui.
Oui, enfin, c'est ça, il a bien sauvé.
Et alors, l'autre contre-secousse qui a frappé un autre allié du MEDEF, c'est effectivement les élections professionnelles, avec la CFDT qui a été très durement sanctionnée à Sudrail, puisque à la SNCF, puisqu'elle perd la moitié de ses voix. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement est sanctionné, la CFDT est sanctionnée. Les seuls qui sont inamovibles parce qu'ils n'ont rien à craindre, c'est évidemment les dirigeants d'entreprise, qui sont directement visés par ces scrutins-là, mais qui, eux, forcément, resteront en place et ont toujours les moyens d'imposer un certain nombre de leurs exigences.
Bernard Cassel.
Je pense qu'il y a un trait commun entre les élections d'hier et celles qui ont eu lieu en Espagne le 14 mars. Dans les deux cas, on a vu, contrairement à l'attente, le déblocage d'une partie des électeurs qui ne votaient pas et qui se sont rendus aux urnes. Et on a le sentiment que ils ont compris qu'on peut aussi agir par le bulletin de vote, alors que c'était une idée, elle aussi, ringarde dans certains milieux. Alors, dans le cas espagnol, c'est un vote, je dirais, moral, une sanction des mensonges et manipulations médiatiques d'Aznar, qui a voulu utiliser les attentats pour essayer d'avoir la majorité absolue. Dans le cas français, ce qui me frappe beaucoup, et qui provoquait beaucoup d'interrogations dans la journée de dimanche, c'est qu'il y a eu 3% de plus de votants qu'au premier tour. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et que ces votants aient amplifié massivement le rejet de la politique gouvernementale établie en étroite connivence avec le MEDEF. Là, il y a une... Je me demande même si certains dirigeants socialistes ou de gauche ne sont pas un peu effrayés par l'ampleur du rejet. Parce que cette ampleur leur pose des problèmes nouveaux. Ce qui a été rejeté, on vient de le dire, c'est les différentes variantes, les différentes facettes du libéralisme économique. Et là, c'est un paquet cadeau un peu encombrant pour certains dirigeants qui ne savent pas très bien quoi en faire, et d'ailleurs qui avaient pour certains un profil bas hier. C'est la question libérale qui est posée. Or, cette question libérale, que autour de laquelle on tourne, certains tournent sans vouloir l'aborder, elle se pose mais massivement dans deux mois lors de l'élection européenne. on a toute raison de penser que les partis qui ont cru gagner les élections hier vont essayer d'extrapoler ce mouvement lors des européennes avec des listes PC, PS, Vert, en essayant de cliver l'électorat en fonction des lignes des partis. Alors que le problème ne se pose pas du tout dans ces termes. La question est de savoir si, lors des européennes, on va ratifier la peine incompressible de 50 ans de libéralisme qui nous est promise par la Constitution, façonnée par Giscard d'Estaing qui, nous le déplorons tous ici, évidemment,
a
mordu la poussière et va devoir retourner à l'Académie française et au Conseil constitutionnel. Donc, cette question libérale, elle est au cœur de l'affaire. Et il est étonnant qu'hier soir, personne n'en ait parlé et on a de bonnes raisons de penser qu'on va en parler le moins possible dans les jours et dans les semaines qui viennent pour essayer de garder les catégorisations du scrutin de mars aussi pour le scrutin de juin. Alors que l'enjeu est très différent et évidemment, on comprend pourquoi tous ces partis ne souhaitent pas aborder la question libérale, c'est parce qu'elle les met au pied du mur et elle permettra de vérifier ou non la sincérité de leur proclamation vaguement antilibérale et plus antilibérale pour d'autres. Là, ils sont au pied du mur et je pense qu'il est important que les citoyens en général soient éclairés sur les enjeux réels du scrutin de juin, qui n'a rien à voir avec le fait de savoir si le PS va gagner ou le PC deux points de plus ou deux points de moins.
Avec le numéro du mois d'avril du Monde Diplomatique. On va aller au Proche-Orient, où ça bouge au Proche-Orient, où ça va bouger au Proche-Orient, suite à l'assassinat, l'exécution du cher Yassine. Et il y a un papier d'Alain Grech sur ce sujet.
Oui, c'est une étape dans la spirale descendante qu'il y a au Proche-Orient, la spirale de la guerre. Et le fait que depuis 3 ans maintenant, on est dans une impasse totale dans la région, alors que curieusement, tout le monde est d'accord sur la solution politique qui serait nécessaire, c'est-à-dire la création d'un État palestinien en Cisjordanie et Gaza aux côtés de l'État d'Israël. En même temps, il n'y a aucune pression faite par la communauté internationale pour imposer cette solution, et on laisse carte blanche au gouvernement de Sharon pour mener une politique de destruction systématique de l'autorité palestinienne. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a eu évidemment des attentats commis par le Hamas, pas depuis le début, mais au bout de 6 mois d'intifada, ça a commencé. La riposte de Sharon, ça a été de détruire l'autorité palestinienne, en laissant complètement de côté le Hamas. Donc pendant 2 ans, ils ont détruit systématiquement l'autorité palestinienne, et puis maintenant, ils s'attaquent au Hamas. Je crois qu'il y a une volonté vraiment de détruire tout ce qui sont les structures politiques de palestiniennes. Bien sûr, le Hamas a été engagé dans des actions terroristes, que eux considèrent comme des actions de résistance, mais qui ne le sont pas. Mais il faut dire que c'est une réponse à un terrorisme d'État. Je veux dire, on est dans une spirale de terrorisme d'État contre terrorisme. Donc, je crois que c'est important à rappeler. Et puis, deuxièmement, contrairement à l'image qu'on en donne, le Hamas n'est pas une organisation qui rejette toute solution. J'explique dans l'article qu'il y a un projet vague de Sharon d'évacuer Gaza. Il y avait en négociation, sous l'impulsion du Cheikh Yassine, une négociation entre toutes les forces palestiniennes pour prendre le contrôle de Gaza et pour éviter qu'il y ait des attentats faits à partir de Gaza ou aucune action armée. Donc ils sont dans une je dirais, Cheikh Yassine, à plusieurs moments, a été plutôt dans une solution. Évidemment, il a une position extrémiste, mais en même temps, d'essayer de trouver un accord avec l'autorité palestinienne. Il avait dit à plusieurs reprises qu'il acceptait une trêve éventuelle entre l'État palestinien et Israël. Donc, sa mort, non seulement elle est illégale et condamnable du point de vue du droit international, mais en même temps, elle risque de durcir le Hamas, de mettre en avant des éléments encore plus radicaux, et surtout de boucher toute perspective. Et encore une fois, depuis 3 ans, on est face à une politique de Sharon qui est d'ailleurs assez habile. Donc, on sait que c'est un homme intransigeant, on sait que c'est le responsable de l'invasion israélienne du Liban en 1982, mais il a appris quelque chose de cette période. C'est-à-dire, il a appris, un, qu'il fallait pas diviser il fallait pas qu'il y ait une opposition interne israélienne trop importante, comme il y a eu au moment des massacres Sabra et Shatila. Donc, il fallait un discours en direction de la population israélienne qui soit consensuel, et deuxièmement qu'il fallait pas d'affrontement avec les Américains. En 82, il y a eu un affrontement entre Israël et les Américains qui a finalement brisé qui a été un des éléments pour briser l'offensive israélienne. Donc maintenant il a compris tout à fait que il avait intérêt à avoir un discours en disant qu'il est prêt à une solution, prêt à des concessions, à des lourdes concessions, etc., à négocier sans arrêt avec les Américains, mais en même temps à accepter. Il a accepté la feuille de route qui était une voie de négociation pour la création d'un État palestinien, mais ça n'a aucune conséquence sur sa pratique sur le terrain. C'est-à-dire, ça a une conséquence, si vous voulez, ces prises de position politique permettent de diminuer la pression de la communauté internationale, mais en même temps, sur le terrain, c'est la destruction de l'autorité palestinienne, c'est la destruction de la société palestinienne, et c'est la poursuite de la colonisation et la construction du mur qui, il faut le dire, dans quelques mois, l'idée même d'un État palestinien apparaîtra absurde tellement les faits sur le terrain seront contraires à la possibilité de création d'un État palestinien.
Actuellement, les Palestiniens n'ont pas d'autre choix que de recourir à nouveau à des attentats et au terrorisme, entre guillemets.
Si vous voulez, le terrorisme est injustifiable du point de vue moral, et moi je condamne, comme je condamne le terrorisme d'État. Et je trouve qu'on ne peut pas condamner le terrorisme palestinien sans en même temps condamner le terrorisme de l'État d'Israël contre les populations palestiniennes. Il est évident que, d'ailleurs, toute l'histoire des 10 dernières années depuis Oslo le montre, chaque fois qu'il y a eu une avancée vers les solutions politiques, le terrorisme a diminué, et chaque fois qu'on a été dans une impasse, le terrorisme a augmenté. Je veux dire, ça c'est une...
Donc ça veut dire que Sharon veut le terrorisme.
Moi je crois que Sharon est dans une logique, la logique du chaos, c'est-à-dire qu'il... Vous savez, l'avantage du terrorisme pour Sharon, du terrorisme palestinien pour Sharon, c'est que ça discrédite évidemment la direction palestinienne, et que donc la pression pour négocier une solution politique avec les Palestiniens est moins forte de la communauté internationale. Parce que ces attentats provoquent, à juste titre, je veux dire, quand il y a un bus qui saute, ça provoque une révolution. Simplement, encore une fois, je veux dire, vous savez, il y a eu un attentat récemment avec 10 dans le port d'Ashdod, il y a eu 10 Israéliens qui ont été tués. C'était dans le mois de février et mars, il y a eu, je crois, 30 à 40 Palestiniens tués tous les mois. Ça ne soulève aucune émotion. Je veux dire, il y a quand même, il faut bien voir la frustration aussi des Palestiniens. On ne peut pas tenir, nous, un discours moral sur le droit international et en même temps laisser faire quelque chose qui est un terrorisme d'État à l'égard des populations palestiniennes. Et donc, je veux dire, tout le discours que nous, on peut avoir, droit international, etc., quand on en discute avec un certain nombre de Palestiniens, ils disent, mais attendez, vous plaisantez, vous avez un discours comme ça, mais il n'a aucune conséquence pratique. Donc, on discrédite nous-mêmes le discours, je dirais, de démocratie, de justice internationale, en permettant au gouvernement israélien de poursuivre une politique qui est une politique, encore une fois, qui est terrible pour les Palestiniens, mais qui est aussi suicidaire pour les Israéliens.
On continue avec le numéro du mois d'avril du Diplo. Il y aura certainement un lien à faire entre ce que vient de dire Alain Grèche sur le Proche-Orient et évidemment les élections américaines qui intéressent beaucoup Serge Halimi.
Oui, là, il semble que maintenant, on connaisse l'identité des deux candidats, puisqu'on sait que ce sera Bush d'un côté et John Kerry, démocrate, de l'autre. Alors, il y a une formidable attente, apparemment, dans certains cercles européens, plus ou moins distingués, qui disent vivement Kerry pour qu'on puisse rétablir la bonne alliance entre l'Europe et les États-Unis et en quelque sorte, restaurer cette espèce de directoire occidental sans histoire sur la planète. Il faut peut-être évoquer en quelques mots l'identité de John Kerry, parce que, effectivement, il est assez peu connu. Alors c'est un sénateur du Massachusetts, qui est un État traditionnellement démocrate, mais c'est aussi un homme particulièrement riche. C'est l'homme le plus riche du Sénat, qui est souvent qualifié aux États-Unis de club de milliardaires. Et bien, c'est le milliardaire parmi les milliardaires. Il a épousé une très riche héritière, il a fait des études dans une pension suisse. Bon, il parle français, ce qui n'est pas forcément un atout dans le cadre d'une élection américaine où tout ce qui a l'air d'être distinction et cosmopolitisme expose à certaines difficultés. Et quant à son bilan, c'est un démocrate centriste, un peu dans l'épure de Bill Clinton, qui n'a pas forcément laissé un excellent souvenir à certains d'entre nous. Il a donc voté en 1996 la loi qui supprimait l'aide fédérale aux parents isolés. Il a soutenu le durcissement pénal lancé par Bill Clinton et la loi dite contre le terrorisme et pour une peine de mort réelle. Parce que s'il est hostile à la peine de mort en cas de crime de droit commun, il n'est pas hostile à la peine de mort lorsqu'il s'agit de faits de terrorisme. Il a soutenu la loi Patriote, qui a mis en cause un certain nombre de libertés individuelles. Il a été un nouveau démocrate au sens favorable au libre-échange, beaucoup plus favorable au libre-échange même que les républicains, réduction d'impôts pour les entreprises. Il s'est proclamé un fan de Davos. Et enfin, il a soutenu en octobre 2002 la politique de guerre préventive et la carte blanche en Irak qui était réclamée par le président Bush. Donc,
bref, il va être élu.
Non, donc il a une possibilité d'être élu. Ne pensons pas que tout va être bouleversé et que la gauche de gauche s'installera au pouvoir aux États-Unis dans cette hypothèse. Mais il y a tout de même une chose qui est intéressante dans cette élection qu'on perçoit déjà. C'est d'une part une certaine radicalisation de l'opinion qui est tellement excédée par la politique de Bush. Peut-être que Bush joue un peu le rôle de Raffarin en France et que ça va susciter ce même type de réaction. Et par ailleurs, une mise en cause maintenant de plus en plus systématique du système médiatique. Car le système médiatique est très concentré aux États-Unis, il est encore plus concentré qu'avant. On pense que d'ici quelques années, il est possible que 3 multinationales se partagent la majorité des stations de télévision. Et ce sujet-là,
ça constitue pour nous un modèle.
Ça constitue pour nous un modèle, puisque comme vous l'avez remarqué récemment, dans un certain silence à la fois médiatique et politique, Serge Dassault, l'industriel Serge Dassault, fabricant d'armes bien connu, notamment le Rafale qui a coûté une fortune aux contribuables, ce qui n'empêche pas Serge Dassault d'être un apôtre du libéralisme pur et dur, cela dit, vient de s'emparer de la SOC Presse, c'est-à-dire maintenant qu'avec le groupe Hachette, autre fabricant d'armes, ils se partageront la majorité, la grande majorité même, à la fois de la presse régionale et de la presse magazine. Et dans le cas de Serge Dassault, c'est d'autant plus troublant que l'homme n'a pas fait mystère de ses intentions. Il a dit de manière assez spectaculaire une fois « Je veux acheter un journal parce que j'en ai assez de me faire attaquer par des journalistes qui ont dit des choses pas gentilles à mon égard. Donc je veux acheter un journal et je veux faire un journal libéral. » Voilà, on se dit qu'il y a enfin un journal libéral. C'est vrai que ça nous manquait en France, il y en a tellement peu. Heureusement que Serge Dassault va venir à notre secours. Alors on peut se demander ce que serait ce journal libéral. Et bien justement, cette semaine, Valeurs Actuelles, qui est un journal qui appartient déjà au groupe Dassault, vient de faire sa une sur les élections françaises. Alors la une est la suivante. En haut, vous avez un bandeau, dossier gestion de patrimoine, sécurisez vos performances. En bas, je ne sais pas s'il y a un rapport, vous avez oui aux réformes, non à l'immobilisme. Dans le haut du oui aux réformes, vous avez la tête de Jean-Pierre Raffarin. Avec ce texte, pourquoi le résultat des régionales doit conduire le gouvernement à accélérer le changement?
Voilà.
Alors on imagine que c'est accélérer le changement pour faciliter la sécurisation des performances de patrimoine évoquées dans le bandeau du journal, sans doute. Et alors non à l'immobilisme.
Comment sécuriser et performance, c'est des mots sympathiques. Voilà. C'est mes performances qui vont être en sécurité.
Voilà.
Donc je suis à la fois un homme de risque et un homme sage. Absolument. Un bon père de famille.
Absolument. Et vous devez donc lutter contre l'immobilisme et non à l'immobilisme. Dans le haut de du nom, il y a la tête de François Hollande. Donc on voit quand même une très à la fois politique, ça ressemble à une affiche de propagande, c'est l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, propriété du groupe Dassault, ce qui permet d'imaginer quels sont ses projets pour le reste de la presse. Je précise qu'il va être maintenant, qu'il est déjà le propriétaire de la majorité du capital du Figaro. Ça va être la même chose pour l'Express, pour tout, tout un groupe de presse qui est gigantesque. Alors, aux États-Unis, curieusement, là pour une fois le modèle pourrait nous apprendre quelque chose, ce genre de situation provoque des réactions. En France, silence total. Je ne sais pas si vous avez entendu une réaction du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des Verts, d'attaque, de l'extrême gauche, des journalistes.
Les socialistes réfléchissent.
Voilà.
Les journalistes. Bon, ils vont nous dire quelque chose, mais pas tout de suite.
Cette question-là, qui est quand même maintenant la maîtrise des moyens d'information dans le pays, suscite un silence à peu près total. Personne n'a vu. Apparemment, personne n'a vu. Il est vrai que la décision de Dassault a été annoncée au moment des attentats de Madrid, ce qui a permis d'évacuer encore plus facilement la chose. Aux États-Unis, en revanche, et c'est là que j'en reviens au sujet, aux États-Unis, en revanche, cette concentration des médias suscite un vaste mouvement populaire qu'on analyse donc dans le monde diplomatique, puisque 2 millions de personnes ont écrit à leurs représentants ou à leurs sénateurs pour s'opposer à une disposition d'une agence fédérale qui permettra davantage de concentration dans l'audiovisuel, et ils ont obligé le Congrès et la Maison Blanche à un premier recul. Et il est assez intéressant que dans le cadre de cette campagne électorale qui s'ouvre, la question de la manipulation médiatique, du contrôle des médias, et sans doute la guerre d'Irak n'a pas été pour rien dans cette prise de conscience, est l'un des sujets sur lequel risquent de s'affronter les candidats.
Effectivement, concernant la guerre d'Irak, on y est allé fort en pédagogie aux États-Unis.
On y est allé d'autant plus fort en pédagogie que l'un des grands groupes de presse, Murdoch, qui fait de l'information continue, qui fait maintenant la chaîne d'information continue, qui a la plus grande audience aux États-Unis, puisque le groupe Fox a maintenant plus d'audience que CNN, est une chaîne ouvertement républicaine. Il faut préciser que le directeur de la station de Murdoch, de Fox, est l'ancien directeur de campagne du père de Bush lors des élections de 1988, et c'est lui qui avait fait l'une des campagnes les plus sordides, les plus épouvantablement racoleuses de l'histoire américaine, qui pourtant, en la matière, est particulièrement riche en campagnes sordides et racoleuses.
On a oublié l'Afghanistan.
Oui.
On a oublié l'Afghanistan. On y est allé pourtant, hein, mais on a oublié. Une fois qu'on a libéré Kaboul, on est rentré à la maison. Et puis, c'est ça à peu près, hein, un crèche, si je me souviens.
C'est
tellement ancien, cette histoire. Oui, oui. Mais visiblement, ça se passe pas très facilement, pas si bien que ça, à en croire le rapport de l'ONG Human Rights Watch, dont vous publiez des extraits des rapports.
Ouais. Non, ça ne se passe pas du tout bien en Afghanistan. La preuve, c'est que les Américains ont décidé d'envoyer des troupes supplémentaires et qu'il y a une guerre qui se livre sur le terrain, mais qui est évidemment très loin des médias et qui est très peu reporté dans la presse. On a entendu parler récemment dans l'offensive de l'armée pakistanaise et des Américains pour essayer de casser une partie de l'organisation Al-Qaïda. Mais c'est une guerre qui est permanente, et je crois qu'il faut dire qu'au bout de plusieurs années maintenant, enfin quelques années de libération, entre guillemets, la situation de la majorité des Afghans est sans doute pire que ce qu'elle était avant, même si, évidemment, on ne peut que se réjouir de la chute du régime des talibans. Ce qu'il y a, c'est que cette guerre qui se mène sur le terrain, d'ailleurs qui est une guerre menée sous la bannière des Nations Unies, contrairement à la guerre de l'Irak, est une guerre qui a son lot de bavures, d'exactions, etc. Human Rights Watch a fait un bilan d'un certain nombre d'actions sur le terrain de l'armée américaine. C'est une organisation américaine qui est très prudente, elle utilise un langage toujours très très diplomatique. En même temps, c'est très difficile d'enquêter sur place, et en même temps, ils donnent des exemples d'utilisation indiscriminée de la force, d'arrestations arbitraires, de tortures, de morts, etc., qui réellement posent des problèmes. Et on voit d'ailleurs, une des choses qu'ils mettent en valeur, c'est l'existence de camps équivalents à celui de Guantanamo, mais locaux, où on utilise fréquemment l'usage de la torture contre des gens. En plus, comme on a souvent des troupes américaines qui ne connaissent pas les coutumes locales, qui ne connaissent pas la langue, etc., ils sont soit aux mains de ce que leur disent tel ou tel informateur afghan, et il y a beaucoup de cas où un type qui a un compte à régler avec une tribu à côté leur dit ils abritent des gens d'Al-Qaïda, donc les Américains interviennent. Soit quand ils n'ont pas d'informateur, c'est encore pire, parce que ils prennent tout tout Afghan armé, ils sont tous armés, pour un terroriste d'Al-Qaïda. Donc ce rapport a été publié début mars aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France. Il a suscité beaucoup de débats aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il a reçu une forte couverture médiatique. En France, il a fait quelques lignes dans les journaux. Je pense que les télés n'en ont pas parlé, les radios non plus. Donc il nous a semblé intéressant de publier ce rapport pour voir quelle était la situation sur le terrain et puis de poser une question, puisque l'armée française est présente sur place. Elle participe en commun avec les Américains aux opérations militaires en Afghanistan. Donc pour savoir si l'armée française est concernée par ces exactions, soit directement, soit au moins en ne les dénonçant pas, puisque, encore une fois, en étant présent sur le terrain et en participant à ce type de combat, on cautionne des choses qui relèvent d'exactions et voire de crimes de guerre.
Stratège de fer, futur de pierre, cliquetis des orfèvres, uranium aux lèvres, mécanique des conquêtes, grande vanne ouverte, huit clos d'acide pour les prochains génocides. Au comptoir du baril d'or noir, on graisse les abattoirs, et derrière chaque dune, des promesses brunes de fausses communes. Une corde chacune avant la pendaison de la lune, les potents sont souris, les cours boursiers aussi. À l'envol premier des éperviers s'est avancé le printemps des bombardiers. Enfin, la nuit a faim, elle s'étire, elle s'est mise à courir, patronesse des rampes de tir. Elle masturbe les obus et le temps, c'est son chant qu'on entend, c'est le sifflement dément des coalitions du sang. Puisqu'ils sont le diamant au doigt de Dieu, puisqu'ils sont l'abreuvoir des peuples heureux, puisqu'ils sont le globe et l'atome, l'air et le sérum, et ce feu des grands ducs sur les rives des oléoducs. À minuit les gorgeurs rétine au viseur, et la rue prend l'odeur du sang frais sur la pierre. À minuit les gorgeurs rétine au viseur, et la rue prend à cœur de ne pas tomber la première. Veux-tu voir la chair et l'ombre se mêler aux décombres, dans un tableau dansé de peau au fond d'un puissant zoo. Peux-tu sentir monter les effluves de corps crevés, les brèches d'un jour nu, à la faveur d'ailes d'acier, le temps d'un cri et d'un crime, et un chapelet d'abîme aux yeux d'épine, et un silence aride, et l'alphabet du vide entre les bras calcinés du premier enfant effacé. Le temps d'un cri et d'un crime, c'est l'heure anthropophage où les visages prennent l'âge des cratères à fleurs d'orage. C'est le temps des fenêtres bouchées de terre verte, c'est le brun clair sur des cimetières qu'on ne regarde plus la mer. Écume funéraire d'un poumon privé d'air, c'est le pays qui a le ventre ouvert. C'est le pays qui a le ventre ouvert. C'est le pays qui a le ventre ouvert. Il se peut que des chenilles s'enlisent et vrillent au point précis où on rase. Se peut que s'embrasent ruelles et caveaux de sable, pour qui veut la preuve qu'un char est cassable. Le oud et le violon ont cassé leurs cordes à l'unisson, parlent d'étrangler le colon, et la rue s'est mise à manier la langue des insurgés.
Voilà, les 50 ans, alors ça c'est la grande affaire en fait du mois de mai prochain, le 8 mai. Dans 10 ans, on dira aux enfants que vous rappelle le 8 mai.
Oui.
Et diront, le 8 mai, c'est les 50 ans du diplôme.
Non, c'est vrai, parce que quand on regarde petite assemblée, on a tous l'air jeune, fringant, plein d'allant. En fait, on n'est plus tout jeune, puisque le monde diplomatique fête cette année ses 50 ans d'existence, avec une histoire formidable, comme dirait Ignacio Ramonet. Mais je pense qu'il vous en parlera peut-être le mois prochain. Et du coup, on est en train de se préparer. On travaille beaucoup et sur le journal et sur ce 8 mai. On a décidé de faire la fête. On n'a pas tellement cette image, mais c'est vrai qu'on peut à la fois être sérieux et faire la fête. Donc on va le 8 mai réunir de nombreux intellectuels, des acteurs sociaux, Étienne Balibar, José Bové, Eduardo Galeano, Tony Negri, José Saramago, Aminata Traoré, João Pedro Stenil, qui est le dirigeant des mouvements des sans-terres brésiliens, pour réfléchir ensemble. On va faire tout ça au Palais des Sports le 8 mai. Et puis on aura, pour se détendre et pour prendre aussi du bon temps, une quinzaine de groupes musicaux, dont Manu Chao, Marcel Calif, Safo, Paco Ibanez, Plagia,
Alain Grèche.
Tout ça, Alain Grèche, on l'a mis en fin de programme, tout à fait en fin de programme,
pour faire sortir
Alain Crèche et son orchestre.
Donc voilà, donc on est très heureux de préparer ça parce qu'on pense que ça va être une rencontre qu'on espère très très riche et que les gens prendront autant de plaisir à assister à cette manifestation qu'à lire le diplôme.
C'est le 8 mai, c'est au
Palais des Sports et il y a.
Et ça coûte combien de sous ça?
C'est pas très cher, c'est 15 euros.
15 euros.
C'est 15 euros, c'est pas une opération commerciale, c'est parce que je veux dire, on fait venir tous ces gens, donc on est près de nos sous quand même, on fait attention.
Très bonne pédagogie, puis, ça c'est de la bonne pédagogie.
Mais faut être sérieux, c'est vrai que on destine tous nos moyens à enquêter, à travailler, à faire un bon journal, donc le but de l'opération c'est pas de faire un grand raout qui va nous coûter des fortunes.
Il faut préciser que ce grand rassemblement festif et convivial et politique a lieu de 13h30 à 22h, donc ça commence en début d'après-midi.
Et ça va jusqu'à la fin de la journée.
Jusqu'à 22h, mais ça sera pas de trop vu l'abondance du programme. On a même des difficultés pour caser tout le monde.
Est-ce que vous avez relu les 50 ans de diplôme les uns et les autres?
Tout le monde ne l'a pas fait, mais certains d'entre nous les ont parcourus, certains d'entre nous les ont lus, enfin lus, pas lus tout, mais...
Quel a été le meilleur numéro en 50 ans?
Le numéro où vous avez tout deviné, tout réussi à raconter, tout pressenti.
C'est le premier numéro où Bernard Cassel a fait la une.
Mais figurez. Mais ça remonte à beaucoup de temps. Et je m'en souviens plus. Non, je pense que il n'y a pas de meilleur numéro.
Tout est bon dans le diplôme.
Bon, bien sûr. Puis c'est une œuvre collective. C'est pas un individu ou une individu qui change la nature d'un numéro.
Ok. Vous êtes bon pour la pub, hein.
Non, pas tellement. On est vraiment d'humour.
Je suis pas sûr qu'on va garder cette séance.
Je crois qu'elle n'est pas très bonne.
Elle n'est pas très bonne.
Voilà,
c'est pas de la pub, c'est de la réclame comme en 1960. C'est de la réclame en 1960. Mais ça refait bien la mode.
Ça refait bien la mode.
Bon, tu dois 2 euros.
Voilà, merci à tous, Maurice Lemoine, Serge Halimi, Martine Bullard, Alain Grèche, Dominique Vidal et Bernard Cassel. On les retrouvera le mois prochain, donc qui sera le mois, vous avez compris, du 50e anniversaire du monde diplomatique. Une chose qui se passe à Grenay, une petite ville du Pas-de-Calais, la projection demain soir du film Le Charbon Ardent, qui traite d'un sujet qu'on a évoqué, rediffusé la semaine dernière sur l'histoire de cette mine de Tower Colliery. Mais le film Charbon Ardent va plus loin évidemment que ce que nous avions présenté. C'est un sujet tout à fait passionnant. Technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Jérôme Pavard. L'équipe de la basse, et j'y suis, Christophe Humbert, Anne de Giaferi, Koyen Guyen et Antoine Chao ont réalisé cette émission monote géniale, bien évidemment. Et demain, donc, mardi 30, on commence notre série sur le Rwanda, Valentine Rwanda, un génocide pas trop important. On va retrouver nos reportages de 94, de 95, de 96, et puis ceux de 2003 et tout récemment ceux de ces jours derniers, avec beaucoup d'invités, dont pas plus tard que je pense demain ou dans les jours qui viennent, Patrick de Saint-Exupéry, un journaliste du Figaro, qui sort un livre qui va faire grand bruit ces jours-ci, L'inavouable, la France au Rwanda, aux éditions Les Arènes. Voilà, c'est le moment de la réclame que vous attendiez.